Atelier d'interprétation des rêves du 8 avril 2021. Grandeur et déclin du rêve. Voilà, donc je vous dis à nouveau bonsoir. Un grand plaisir ce soir de vous retrouver pour ce premier atelier d'interprétation des rêves. Vous l'avez peut-être vu dans mes messages, mais je sais que certaines parmi vous le savent. Mais c'est un atelier que j'ai donné assez régulièrement à Montréal entre 2003 et 2010, et j'avoue un petit peu d'émotion à le ressusciter, si je peux me permettre ce mot dans cette semaine qui suit Pâques, de le recréer. Je pensais que ça allait être rien du tout de recréer cet atelier, de le reprendre en fait. De le revisiter m'a fait beaucoup travailler, revisiter plein de choses. Donc je vais être très très, c'est pour moi c'est très très intéressant de partager ça avec vous. Je suis très touché aussi de voir quand moi j'ai décidé de donner cet atelier il y a tout juste une dizaine de jours que je l'ai annoncé et que il s'est trouvé aussi rapidement 20 personnes pour s'inscrire à cet atelier parce que voilà, c'est le groupe que nous serons ce soir et les prochains jours, 20 personnes, ce qui, vous avouerai, a dépassé la limite que je pensais fixer, puis au fur et à mesure des discussions. J'ai même dû refuser du monde. Il y a des gens qui se contenteront d'avoir les enregistrements théoriques. Alors, le plan de la soirée, rapidement, une petite présentation de l'ensemble de l'atelier, des mots d'introduction. On aura un petit moment de présentation de tous les participants et participantes. Et puis après, je donnerai une partie théorique plus consistante. Et nous aurons une pause et finalement, nous passerons à la pratique. Ce soir, on aura peut-être un petit peu moins de pratique, un tout petit peu plus de théorie parce qu'il y a la présentation initiale. Mais enfin, comme vraiment, je tiens à ce que le travail se passe surtout par la pratique. Je vais veiller à ce que à pas trop parler. Alors, commencer avec une petite présentation et en fait par me présenter parce que toutes les personnes ici me connaissent pas. Il y en a parmi vous qui ont travaillé déjà depuis longtemps avec moi, d'autres que je ne connais tout simplement pas du tout. Qui suis-je? Ben, je vous dirais que c'est d'ailleurs une question existentielle que j'adore me poser, mais indépendamment de ça, ce soir avec vous, j'adopte la casquette de l'onirologue jungien. Onirologue, c'est un mot que j'adore parce que c'est tout proche d'ornithologue. Oniros, les rêves. Et ornithos, les oiseaux. Et en fait, les rêves et les oiseaux, vous savez, ont une parenté, c'est que ça s'envole très très vite. Vous en avez certainement toutes fait l'expérience, si vous prenez pas la peine d'attraper l'oiseau du rêve dès le matin, c'est parti. En passant, je fais une petite interruption, surtout en direction des hommes qui sont présents ce soir, mais ça vaut aussi pour les femmes. Un de mes biais bien connus par les personnes qui me connaissent bien, c'est que je suis pour la simplification du langage, donc j'éviterai de dire tous et toutes à chaque fois. Je suis pour un retour au XVIIe siècle, avant que Monsieur Bossuet décide de masculiniser le langage et qu'il suffisait qu'il y ait un homme dans la salle avec 1000 femmes pour qu'on dise tous et chacun. Donc, je dirais toutes et chacune. À chaque fois que je devrais employer ces mots-là et me simplifier un petit peu la vie tout en étant inclusif. Hein? Ça fait partie aussi de ce pourquoi je milite, entre guillemets, et je parle de militantisme parce que si je donne un cours comme celui que je donne ce soir et l'atelier que je vais vous proposer, c'est aussi parce que je milite pour le retour d'une culture du rêve dans nos sociétés. Je reprends cette expression de Robert Moss, qui avait publié un très très beau texte il y a une dizaine d'années, où il parlait de l'importance d'une culture du rêve, de comment si on avait une culture du rêve, on vivrait autrement les problèmes qu'on rencontre, on écouterait autrement nos adolescents, par exemple, quand ils se posent des questions d'orientation, On accompagnerait différemment les personnes malades et les personnes âgées, parce qu'on serait en mesure d'écouter ce que leur âme ou leur intériorité a à nous dire. On réglerait différemment nos problèmes de couple et nos problèmes relationnels, parce qu'on serait capable d'entendre qu'est-ce qu'un certain arrière-plan a à nous dire par rapport à ce qu'on vit. Et donc, moi, ça me paraît essentiel de militer ouvertement, même si j'aime pas tellement ce mot militer qui connote militaire et compagnie, mais disons de travailler au retour d'une culture du rêve dans notre société. Je dis bien retour, ce sera notre sujet ce soir, le sujet de la présentation. Je vous parlerai de comment le rêve a eu son heure de gloire dans le passé et dans d'innombrables cultures, et comment il a perdu cette heure de gloire, comment dans notre monde en particulier. Le rêve est devenu quelque chose de complètement perdu, de complètement oublié. Et finalement, ce que nous vivons aussi, et ça sera l'occasion de notre discussion, c'est le retour du rêve dans notre culture rationaliste. Mais pour continuer à vous parler un tout petit peu de moi, je vous dirais que 40 ans d'amour pour les rêves. Et c'est pas fini. Mais vraiment 40 ans d'amour, et je leur voue une gratitude fondamentale. Les rêves, je dirais honnêtement, m'ont sauvé la vie. Au sens propre, mais au sens figuré aussi, c'est-à-dire qu'ils l'ont rendue passionnante, riche, etc. Avec les rêves incontournables, Monsieur Carl Jung, vous savez que Freud a dit que les rêves, c'est la voie royale pour accéder à l'inconscient. On pourrait dire aussi que les rêves, c'est la voie royale pour accéder à Jung, sans faire d'équation entre Jung et l'inconscient. Mais Jung nous introduit après d'une autre façon à l'inconscient. Et donc, c'est d'où la reformulation, quelque part, de la proposition de cet atelier en comment dire, l'interprétation des rêves et la psychologie des profondeurs. Je considère aujourd'hui que les deux sont inséparables, qu'étudier la psychologie des profondeurs sans passer par le travail avec les rêves, c'est risquer de partir dans la théorie désincarnée. Et c'est sûr qu'on peut s'intéresser aux rêves sans s'intéresser à Jung, mais quand même, il leur donne une perspective, une profondeur tout à fait remarquable. Pour ma part, Jung, c'est un peu comme un grand-père spirituel. Dans cette relation affective d'un grand-père. Et j'aime bien dire en même temps que les grands-pères, c'est ainsi fait qu'on reste pas assis sur leurs genoux, on est obligé de partir, on est obligé d'aller voir d'autres choses. Et au-delà de Jung, ou avec Jung dans mes bagages, j'ai fait tout un détour pendant longtemps par la méditation, par l'Orient, par le chamanisme. Pour finir, au bout du compte, après 25 ans de recherche comme ça, par en revenir à ce qui préoccupait fondamentalement Jung, à savoir l'alchimie. La grande découverte de Jung, quelque part, c'était justement qu'est-ce que l'alchimie peut avoir à nous apprendre, sa dernière grande découverte. Mais d'emblée, c'est clair que la présentation que je vous ferai de la psychologie des profondeurs est une présentation qu'on pourrait dire non orthodoxe. C'est une présentation, je ne sais pas si en fait on peut vraiment parler de toute façon d'une orthodoxie de la psychologie des profondeurs, mais il y a une certaine façon de s'en tenir à des concepts jungiens. Chez moi, ils sont colorés par d'autres approches, et l'orientation que j'aime donner à mes présentations, c'est une orientation que je peux dire résolument non dualiste, à la recherche du dépassement de la dualité. Ce qui, on le verra, est dans le projet de Jung, d'une certaine façon, même si c'est pas formulé comme ça. Et puis, en même temps, je suis ouvert vraiment à tous les apports, à toutes les approches. Il y a parmi vous différentes personnes qui ont étudié déjà les rêves, qui ont déjà étudié Jung, avec d'autres enseignants, selon d'autres approches, et vraiment bienvenue pour amener d'autres éclairages. Je crois fondamentalement à un petit leitmotiv que nous répétait, enfin que répétait Nicolas Flamel, l'alchimiste, de la discussion jaillit la lumière. Et vraiment, c'est du fait de mettre en discussion un certain nombre d'idées qui fait ressortir la lumière. Une approche non orthodoxe parce que je vous proposerai aussi une lecture des concepts de Jung que je proposerai comme réadapté peut-être à notre époque, au XXIe siècle. Je veux dire par là, par exemple, que quand Jung a élaboré des concepts comme l'anima et l'animus, le masculin de, enfin, l'anima, le féminin de l'homme, l'animus, le masculin de la femme, il était dans une vision très restreinte, à une époque où on ne voyait justement le monde que divisé entre hommes et femmes, et les femmes devaient être féminines d'une certaine façon et les hommes masculins d'une autre. Et nous sommes à une toute autre époque, nous sommes dans une autre culture dans laquelle on discute beaucoup de la notion des genres, dans laquelle notre jeunesse s'intéresse à explorer des approches qui qualifient de non-binaires, de hors des modèles masculin, féminin, et on a vraiment à revisiter ces concepts, sinon on risque de s'enfermer dans une pensée qui est la pensée d'un bourgeois suisse des années 30, qui par exemple, quand il décrit l'animus des femmes, peut faire profondément hurler toute personne qui a une sensibilité féministe. Puisqu'il dit finalement l'animus des femmes, il est en train d'essayer de marcher sur la tête des hommes et de reprendre le pouvoir, etc. Et la meilleure chose qu'on puisse trouver à faire avec lui, c'est de trouver le moyen de le faire taire. C'est faux. C'est faux. Il y a des recherches qui le montrent et il y a en fait tout un mouvement de renouvellement de la psychologie jungienne depuis une vingtaine ou une trentaine d'années qui réinterroge ces concepts et qui aussi désexualise, on pourrait dire, l'animal, l'animus, tous ces concepts-là. Donc, je vous ouvrirai un peu à ces réflexions. Mais plus fondamentalement, notre sujet, ce sera le rêve. Et derrière le rêve, je vais oser dire un gros mot, mais c'est l'âme. Sans chercher à la définir, je pourrais vous proposer éventuellement à un moment ou à un autre une vision de l'âme, mais ce que Jung appelait Das Ziel. Très régulièrement dans ses textes, il parle de la psyché, et puis tout d'un coup, il glisse et il se met à parler de l'âme. Et dans son esprit, visiblement, ces deux termes sont équivalents, et pourtant, il mérite d'être soigneusement distingué. Mais la plus grande difficulté dès qu'on parle de ces sujets-là, c'est d'éviter de mettre l'âme dans une bouteille conceptuelle. Et en fait, ça va être notre défi au cours de ces 10 rencontres. On va parler de sujets comme l'ombre, l'anima, l'animus, le soi. Et le problème, c'est que généralement, on en fait des concepts. Or, ce ne sont pas des concepts. Je viens d'une amie qui m'avait communiqué un rêve comme ça. Elle s'intéressait profondément à la psychologie des profondeurs. Et elle a reçu un rêve dans lequel quelque chose s'approchait et lui disait: je suis l'ombre. Je suis l'ombre et je suis une réalité vivante. Et ce rêve l'avait bousculée parce qu'elle avait tendance à chercher une compréhension intellectuelle des choses. Or, Jung n'était pas un philosophe, n'était pas un théoricien, c'était un empiriste, c'est quelqu'un qui s'est lancé à la découverte de ce qui se présentait à lui à travers les rêves, à travers l'imagination. Et les termes qu'il a employés, d'ombre, d'animus, d'anima, de soi, sont équivalents à des termes qu'on pourrait employer pour parler d'un chat, d'un chien, d'un ornithorynque. Ce ne sont pas des concepts, c'est des réalités vivantes. On ne peut pas conceptualiser un chat. Tout ce qu'on peut faire, c'est voir un chat et dire: ah, ça, c'est un chat. Ça, c'est un chat et c'est vivant. Quelqu'un qui n'a jamais vu de chat va dire: mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Et tant qu'on peut pouvoir lui montrer un portrait de chat éventuellement, mais tant qu'il n'aura pas vu le chat se mouvoir, tant qu'il n'aura pas vu la grâce du chat, il ne saura pas exactement qu'est-ce que c'est que le chat. Et d'où l'intérêt d'étudier les rêves, de rencontrer les rêves pour approcher la psychologie de Jung, parce que dans les rêves, il y a des chats, il y a des chiens, il y a des ornithorynques, il y a des alligators, il y a l'ombre, il y a l'anima, il y a l'animus, et là on va pouvoir les voir, les nommer, les repérer. Donc, tout le défi, quelque part, de l'étude dans laquelle on rentre au cours de ces 10 rencontres, c'est que l'inconscient est vivant, les rêves sont vivants, les archétypes sont vivants, et que ça déborde des concepts. Et ça ne vaut que par l'expérience vivante. Ça ne nous apprend quelque chose que par l'expérience vivante. il faut que nous fassions attention à ne pas faire de l'analyse une dissection. Parce qu'une dissection, ben en fait, on ne dissèque que des cadavres. Donc il s'agit d'une certaine façon aussi, non pas de travailler le rêve au sens de le torturer pour en extraire un sens, et le faire rentrer dans une théorie, mais de nous laisser travailler par le rêve, de façon à ce que le rêve nous informe, nous amène des éléments nouveaux à notre conscience. Donc, on a besoin d'un renversement, non pas chercher à comprendre à toute force le rêve, mais l'aimer, rentrer dans une relation avec lui. Alors, vous avez déjà reçu des éléments de support de cours. Il y aura, comme vous avez reçu aujourd'hui aussi, pour chaque cours, il y aura des éléments supplémentaires que je vous amènerai pour vous éviter d'avoir à prendre trop de notes, pour que vous ayez du matériel pour laisser infuser les idées proposées, vous nourrir. Par exemple, je vous donne beaucoup de citations de Jung. Parce que je sais que Jung est difficile à lire et donc j'en ai depuis, avec le temps, recueilli beaucoup de citations qui illustrent un certain nombre de points que je propose à votre réflexion. Un des objectifs en vous fournissant tout ce matériel, c'est de favoriser l'autonomie, je dirais, du chercheur, la chercheuse solitaire, de nourrir la recherche. Je crois que de toute façon, ces recherches-là ne valent que par la mesure dans laquelle on y est engagé personnellement. Et ce qui est mon objectif, c'est de donner à manger à ceux qui cherchent. Il y aura de la pratique aussi, beaucoup de pratique, mais d'une certaine façon, il faut faire attention au rapport entre la pratique et la théorie. C'est la pratique qui éclairera la théorie et non l'inverse. C'est pas la théorie qui va éclairer la pratique. On va se laisser surprendre par les rêves et ils vont nous amener des perspectives qui seront probablement au-delà de ce que je pensais vous communiquer. Je vous cacherai pas que j'applique une stratégie très simple que j'applique depuis longtemps, qui consiste à donner au mental à manger jusqu'à ce qu'il crie grâce. Parce que quand on a donné à manger au mental suffisamment, il y a un moment il n'en peut plus et c'est à ce moment-là qu'on peut éventuellement aller, entre guillemets, comme on dit au Québec, lui en passer une. Arriver à toucher quelque chose au-delà justement du conceptuel, au-delà du, etc. Donc, vous serez pas une experte, un expert en 10 leçons. Hein. Il paraît que il faut 10 000 heures de vol à peu près pour devenir un maître en quoi que ce soit. Hein. Je prétends même pas les avoir, les 10 000 heures de vol. Mais vous aurez une bonne base à l'issue de ce cours pour poursuivre la recherche. Et pour vivre vos rêves, avec vos rêves en bonne intelligence. C'est ça l'objectif. Le danger, encore une fois, ce serait de vous encombrer de trop d'idées, trop de références. Et en fait, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce cours, il sert à rien. Il sert à rien parce que l'essentiel, vous le savez déjà. Et on va aller le voir ce soir en évoquant le passé, en évoquant nos lointains ancêtres. Qui n'avaient pas besoin de psychologie des profondeurs, qui n'avaient pas besoin d'université pour comprendre leurs rêves et qui les comprenaient très très bien. Plus que des connaissances, il s'agit de transmettre, pour moi, il s'agit de transmettre une posture intérieure à l'égard du rêve, une attitude, une qualité de relation que je pourrais définir en quelques mots. Ça commence par le respect. Le respect du rêve. Le respect qui consiste à ne pas justement le conceptualiser, le mettre dans quelque chose qui serait trop restreint. Avec le respect, il y a besoin d'une certaine présence, d'être présent à ce qu'on ressent, à ce qui se passe à l'intérieur, d'une écoute, de présence. Avec l'écoute, il y a besoin d'une ouverture. Et je suis convaincu que s'il y a respect, écoute, ouverture, présence, nécessairement vous en arriverez à l'amour du rêve et même à une forme de révérence, à la reconnaissance de qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que nous dans le rêve. En dernier lieu, ce n'est pas une méthode que je vais vous communiquer, j'ai le front de prétendre qu'en fait le sens des rêves nous parvient malgré toutes les méthodes. que les méthodes qu'on utilise avec les rêves, c'est généralement un peu les outils de l'obstétricien pour aider un bébé à naître. Mais que le bébé, il a envie de naître. Et qu'il s'agit surtout de lui ouvrir le chemin. Ce n'est pas une méthode, mais plutôt une façon d'entrer en relation avec le rêve. Et mon objectif, pour terminer un peu cette présentation, c'est de vous emmener au-delà de l'interprétation. Je me suis énormément intéressé à l'interprétation des rêves pendant des années, je trouve ça absolument passionnant. Mais je me suis rendu compte que finalement, dans l'interprétation, il y a toujours ce désir du conscient de faire rendre gorge au rêve, de lui faire dire sa vérité. Et qu'en fait, dans le rêve, il y a un mouvement qui cherche à nous transformer. Et que ce mouvement-là, il passe éventuellement par quelque chose qui est au-delà des mots, au-delà de l'interprétation. Il surgit, par exemple, dans la relation quand deux personnes parlent d'un rêve. Et celles d'entre vous qui ont l'expérience de travailler avec moi savent comment, bien souvent, on commence une session et on ne sait pas ce qu'un rêve veut dire. Et puis, à force d'en parler, de tourner autour, le rêve nous apprend quelque chose. Donc, l'objectif, je vais vous parler de l'interprétation des rêves pendant ces 10 cours de Jung, c'est de vous emmener au-delà de l'interprétation. Ce sera l'objet du dernier, la dernière rencontre, approfondissement, en posant cependant que pour aller au-delà de l'interprétation, eh ben, il faut bien comprendre l'interprétation. Donc, ce sera le but quelque part de notre travail ensemble pendant ces 10 rencontres, 10 leçons. Est-ce que, avant qu'on passe à une autre phase, est-ce que ce que j'ai dit a suscité une question qui aurait besoin de se poser immédiatement? On va sans transition, je vais aller de l'avant avec éléments théoriques que je vais vous proposer ce soir. Et ce soir, je vous parle donc de grandeur et déclin du rêve. C'est-à-dire que notre sujet, ça pourrait être aussi d'ailleurs grandeur et déclin de l'âme. Mais notre sujet, ça va être un peu qu'est-ce qui est arrivé au rêve qui était tellement au centre des préoccupations de nos ancêtres. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça va nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes et sur les biais qu'on peut avoir nous-mêmes en tant qu'occidentaux du XXIe siècle par rapport aux rêves. Et pour moi, c'est important justement de, à chaque fois que je redonne cet atelier, cette série de cours, qu'on reparte en se connectant à l'être humain ancien, à l'être humain d'il y a plusieurs dizaines, si ce n'est centaines de milliers d'années, et qui accordait certainement une grande place aux rêves. On ne sait pas, évidemment, on n'a pas de témoignage direct de ce qui se passait pendant les temps préhistoriques, mais on a quand même une très bonne idée de comment les cultures préhistoriques pouvaient appréhender le rêve grâce à la connaissance qu'on a des cultures qu'on pourrait dire premières aujourd'hui, qu'on appelait avant primitives, mais ce mot-là est peut-être un petit peu à questionner. Par exemple, les Bushmen, les aborigènes d'Australie, les Bushmen d'Afrique de l'Ouest, qui sont des cultures qui sont restées très très proches de ce qu'on pense être, avoir été les cultures préhistoriques. C'est très intéressant. On voit à quel point le rêve occupe une place centrale dans leur existence. Un des indices qu'on a de cette présence du rêve chez les hommes préhistoriques, dans les cultures préhistoriques, c'est les tombes qu'on a retrouvées. Et le fait qu'à partir de, il y a environ 45 000 ans, on a retrouvé des tombes dans lesquelles les morts étaient enterrés avec tout le nécessaire pour voyager. Et ça témoigne du fait d'une conception de l'âme. Ça témoigne d'une idée que les êtres humains préhistoriques pouvaient se faire de la continuité de la vie après la mort. Et ce qu'on sait justement en regardant les cultures des Bushmen et les aborigènes d'Australie et certaines cultures en Amazonie, etc., c'est qu'il y a une directe correspondance entre le fait qu'ils concevaient que l'esprit continuait à voyager après la mort et qu'il fallait donc justement fournir des provisions de voyage aux défunts, et l'idée qu'ils ont de fait que pendant les rêves, l'âme va voyager dans le monde des esprits et va y chercher des informations qu'elle ramène et qui sont des informations importantes pour la communauté. Dans les peuples primitifs, il n'y a pas d'ingénieurs, il n'y a pas de bureau des études pour concevoir des innovations technologiques. Or, on s'est rendu compte qu'un certain nombre des avancées technologiques qui ont été faites, par exemple, chez les Boshimans et compagnie, viennent directement du rêve. Par exemple, il y a cette légende de la naissance de l'arc chez les Boshimans qui raconte tout simplement qu'un jour, il y a un chasseur qui était exténué à force d'avoir chassé toute la journée, d'avoir été bredouille, que le gibier lui échappait, qui s'est couché sous un arbre et qui a rêvé d'un être étrange qui lui a parlé du fait de prendre une branche, de la couper, de la passer au feu jusqu'à ce qu'elle puisse se tordre d'une façon avec une certaine robustesse, de couper une liane, d'attacher cette liane aux deux extrémités et de tailler une flèche et d'envoyer la flèche. Et en fait, on a la quasi-certitude que la plupart des avancées civilisationnelles les plus importantes, l'agriculture, la roue, l'écriture, ne sont pas venues de réflexions conscientes d'un gars qui s'est posé un matin en se disant « faut que je résolve tel problème », comme le font nos ingénieurs. Non, c'est venu d'une créativité de la psyché qui a amené l'idée et qui, assez généralement, l'a probablement amené à travers des rêves, à travers des visions, à travers des imaginations. Et c'est ce qui nous permet de comprendre que toutes les légendes anciennes, toutes les mythologies anciennes nous parlent de héros civilisateurs, comme par exemple Osiris. Osiris est le grand héros civilisateur des Égyptiens, et Osiris, c'est un dieu. Et ce dieu a inventé tout à la fois l'agriculture, le travail du fer, la construction des temples, une certaine forme d'architecture, etc. Et on pense que les Égyptiens, qui s'intéressaient énormément à leurs rêves, ont tout simplement regroupé sous le terme d'Osiris la perception qu'ils avaient de ce qu'il y avait quelque chose qui leur amenait une information de l'intérieur et qui était une information qui leur faisait faire des avancées, qui réglait les problèmes. On connaît, je ne m'étendrai pas outre mesure là-dessus, mais on connaît de plus près de nous, on connaît des peuples comme les Algonquins, les Iroquois, les Mohawks au Québec, qui ont été des cultures du rêve et qui ne prenaient pas de décision sans interroger les rêves. Et qui ont, par exemple, les Iroquois n'ont jamais été vaincus militairement. Et ça va avec le fait qu'ils rêvaient avant d'engager la tribu dans un conflit. Et le jour où les Anglais leur ont tendu une embuscade, on ne sait pas très bien comment ils ont eu l'information, mais ils sont arrivés par derrière et ils ont tapé sur l'épaule des Anglais en disant « Coucou, on est là ». On a le témoignage d'un jésuite de l'époque qui disait « Nous avons un problème », il écrivait à sa hiérarchie, parce que quand on parle de Jésus-Christ à ces gens-là, ils nous écoutent en rigolant, parce qu'eux, ils ont un Dieu qui leur parle. C'est le rêve. Et nous, on n'arrive pas à faire parler Jésus-Christ. C'était un jésuite qui avait de l'humour. Le rêve a vraiment fait partie de toutes les cultures jusqu'à notre culture. C'est vraiment, on va examiner le fait qu'il y a quelque chose d'accidentel avec notre culture qui entraîne en même temps un nouveau développement de la conscience, c'est ce qui a fasciné Jung. Et au fond, tout notre travail avec la psychologie des profondeurs consiste à essayer de retrouver l'héritage perdu par une certaine avancée de la conscience vers la raison, vers, etc. Et le plus ancien rêve connu date d'il y a 4500 ans. C'est un rêve qu'on a retrouvé en Mésopotamie sur des stèles qui racontent l'épopée de Gilgamesh. Sur ces stèles, il y a une quinzaine de rêves. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on a non seulement les rêves, mais on a leur interprétation. Et on a l'histoire du héros Gilgamesh. Alors, je vais vous raconter un rêve, le plus vieux rêve connu. C'est Gilgamesh qui rêve, le roi de la cité d'Uruk, qui rêve. La nuit dernière, je me promenais dans ma ville. Il y avait beaucoup de monde dans les rues. J'avais le cœur joyeux et fier. Les étoiles brillaient au-dessus de moi dans le firmament. Et tout à coup, je m'aperçois qu'une étoile tombe dans ma direction. Et effectivement, une étoile s'écrase sur moi. Elle est très lourde. La foule curieuse nous entoure. Certains plaisantent, d'autres embrassent le pied de l'étoile. Moi-même, je suis attiré par elle, comme par l'amour d'une femme. Marie-Louise von Franz, qui était la collaboratrice de Jung, quand elle rapporte ce rêve, la première chose qu'elle nous fait remarquer, c'est qu'elle dit c'est intéressant parce que le langage des rêves n'a pas changé depuis des millénaires. Un être humain contemporain pourrait faire le même rêve. Et puis, on a l'interprétation de la mère de Gilgamesh, qui était interprète de rêve, la mère du roi, donc. Son interprétation, c'est que son roi de fils, qui est tout puissant dans sa ville, va rencontrer un héros aussi puissant que lui, et que ça va, d'une certaine façon, rabattre son caquet, et qu'ensemble, ils vont partir pour faire des conquêtes impressionnantes, mythiques. Et l'autre commentaire de Madame von Franz, qui est très intéressant, c'est qu'elle dit, au fond, dans un langage différent, nous aurions donné la même interprétation. Alors, je vous parlerai après de l'interprétation de Madame von Franz, mais on a l'épopée de Gilgamesh qui justement raconte le déploiement de ce rêve. À savoir que Gilgamesh, c'est un roi, c'est un peu un roi tyrannique. C'est un gars qui se promène dans les rues de sa ville et puis se sert quand il a envie de manger quelque chose. Et entre autres, il s'arroge un droit de cuissage. Quand il y a un mariage, il va voir au mariage si la mariée lui plaît. Et si la mariée lui plaît, il réclame la prérogative du roi et il couche avec la jeune mariée avant même le marié. C'est ce genre de type. Mais dans les parages de la ville d'Uruk, on parle justement d'un homme sauvage qui est là et qui terrorise la population. Tout le monde en a peur parce que quand il a faim, il vient se servir, il se jette sur les troupeaux et personne ne sait quoi faire. On a envoyé des guerriers, il a défait les guerriers, etc. Mais les sages de la ville se sont réunis et ont eu une idée. Ils ont envoyé une courtisane à cet homme sauvage. Une courtisane parfumée avec des plats fins et tout, et elle passe 7 jours avec cet homme sauvage, et elle l'amadoue, et finalement elle le ramène en ville. L'homme sauvage revient en ville, mais quand il revient en ville, cet homme sauvage qu'on appelle à ce moment-là Enkidu, il voit le comportement du roi, il trouve pas ça correct, et il le défie au combat. Et les deux hommes se battent du matin au soir, et ils sont aussi forts l'un que l'autre. Et finalement, le soir, à la nuit tombée, ils se regardent et ils disent, c'est idiot de se battre, on devrait être amis. Et le rêve, donc, la prophétie de la mère de Gilgamesh se réalise, il a rencontré quelqu'un qui est de la même force que lui. Et ensemble, ils vont partir en quête, une quête extraordinaire, ils vont alors là, ils vont défier les dieux, ils vont abattre le géant qui garde les forêts du Liban, ils vont jusqu'au moment d'ailleurs où Enkidu va mourir parce que ils ont fini par irriter les dieux. Et ça va briser le cœur de Gilgamesh, qui va se rendre compte à ce moment-là que toutes ces conquêtes ne servent à rien, que tôt ou tard la mort arrive. Et il va partir en quête de l'herbe d'immortalité. Et il va finir par trouver au bout du monde cette herbe d'immortalité, au fond de l'océan. Il va aller la chercher, il va en revenir blessé par les herbes qui la protègent, les herbes coupantes. Et quand il va être sur le chemin du retour chez lui, il va se laver, poser l'herbe d'immortalité sur le bord d'une fontaine. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un serpent qui passe et qui mange l'herbe. Et le héros rentre bredouille. On a une histoire merveilleuse qui en fait résume toute la quête intérieure, puisque ce que Jung a appelé l'individuation, ça peut tout à fait se représenter comme la quête de l'herbe d'immortalité au fond de l'océan, qui est volontiers une image de l'inconscient. Déjà au départ, on a un complexe de puissance du roi qui est soigné, ou plutôt guéri d'ailleurs, par un homme sauvage. Et c'est aussi ça la démarche de la psychologie des profondeurs. Nous, en tant qu'Occidentaux, nous avons un complexe de puissance, nous croyons que nous maîtrisons le monde avec notre technologie, avec nos connaissances, et nous avons d'une certaine façon besoin, au travers du rêve, d'aller recontacter l'être humain naturel, l'être humain sauvage, et ça guérit notre complexe de puissance, ça nous remet à notre place, et ça nous remet dans la direction de la quête essentielle. Jung disait, en rapport à cette herbe d'immortalité, que la seule conquête qui vaille aujourd'hui d'être poursuivie, c'est l'exploration de notre propre monde inconscient. On est capable d'aller sur la Lune, on est capable d'aller partout, mais on ne connaît pas encore l'intérieur, et c'est pourtant cet intérieur de l'être humain qui est déterminant, ne serait-ce que par exemple pour savoir s'il y aura une continuité à notre civilisation, ou si on va trouver le moyen de s'autodétruire avec nos bombes nucléaires, etc. Et von Franz commente le rêve de Gilgamesh de la façon suivante. Elle dit: Gilgamesh, c'est le roi héros ambitieux typique, dont la réussite suit le modèle collectif. Il pourrait aujourd'hui être un politicien ou une star de cinéma. Ce n'est pas un individu vrai. Il est tout dans la représentation, il est tout dans son rôle social. Mais l'étoile représente en fait sa destinée, sa singularité d'être unique. Chaque âme a son étoile dans le ciel, et celle qui tombe sur Gilgamesh est très lourde. C'est le moment de sa vie où son destin individuel le confronte littéralement. Il lui tombe dessus, et maintenant il doit le porter comme le Christ a porté sa croix. Il doit remplir sa destinée véritable, ce qu'il a essayé de faire en étant ambitieux et en s'en tenant au modèle collectif. Mais avant que l'étoile ne lui tombe dessus, Gilgamesh croyait être un grand homme. Mais ce qu'il doit réaliser, c'est que les gens n'admirent pas son pouvoir ou sa puissance. Dans le rêve, ils embrassent le pied de l'étoile, et non les siens. Ce qu'ils admirent, c'est l'étoile, qui représente sa vraie grandeur. Et là, je souligne les mots de von Franz. Elle dit: le rêve dit à Gilgamesh, ne te réjouis pas des compliments et des promesses. C'est ton étoile que les gens admirent. C'est ta capacité de devenir un individu unique, hors des modèles collectifs. Mais cela est un poids insupportable qu'il te faudra porter parce que suivre son étoile veut dire solitude, isolement, ne pas savoir où aller ni quoi entreprendre. Cela signifie trouver pour soi-même une voie entièrement nouvelle pour accomplir sa destinée et se tenir à cette voie avec intégrité. Le rêve dit ça à un homme de moins 3000 avant Jésus-Christ. Et si le rêve advenait à une personne aujourd'hui, on lui tiendrait le même langage. L'être humain n'a pas fondamentalement changé dans l'exigence d'accomplir sa singularité unique. C'est ça que M. Jung appelait l'individuation, dont nous aurons l'occasion de reparler en profondeur au cours des prochaines semaines. Et encore aujourd'hui, peut-être même encore plus aujourd'hui, s'en tenir à l'individuation signifie solitude, isolement, ne pas savoir où aller ni quoi entreprendre, ne pas suivre de modèle défini. C'est Jung dans son livre rouge qui s'insurge à un moment et qui dit: qu'est-ce que vous me demandez? Vous me demandez un modèle? Mais la voie de Jung n'est pas votre voie. Trouvez votre propre voie. C'est vraiment ça l'injonction fondamentale et c'est à ça que nous servent les rêves. Nous ramène à ce qu'est notre propre voie. Si on revient à l'histoire rapidement, je vais la survoler. On peut dire que l'Antiquité était toute dédiée aux rêves. Le plus ancien papyrus qu'on connaisse sur les rêves date de 2000 ans avant Jésus-Christ. Et c'est un manuel d'interprétation. Évidemment, c'est pas nos manuels d'interprétation parce que les Égyptiens, les Chaldéens, avait inventé la divination par les rêves, l'oniromancie, on appelle ça, qui s'est transmise après dans le monde grec et romain. Pour les Grecs, il y avait les rêves étaient issus de la terre, mais après Zeus les a enrégimentés. On a là des traces du passage entre plusieurs civilisations, une époque où en Grèce existait la civilisation de la grande déesse, puis après une autre civilisation est venue par-dessus. On a des traces historiques de ce genre de choses dans la mythologie et dans le travail avec les rêves, qui étaient d'abord l'apanage des femmes, puis qui sont devenus l'apanage des prêtres d'Apollon, comme si les hommes avaient besoin de reprendre ça en main. L'oniromancie, la divination par les rêves, était l'art divinatoire par excellence. Il y avait toutes sortes d'autres arts divinatoires. On pouvait faire de la divination en regardant les oiseaux, on pouvait faire de la divination en ouvrant un poulet, en regardant ses tripes. Il y avait toutes sortes de divinations. Mais la divination par les rêves était considérée comme l'art suprême parce que il réclamait de connaître tous les aspects des symboles, etc., alors que tous les autres étaient spécialisés d'une certaine façon à un aspect symbolique. Pour l'homme antique, le rêve, c'est l'espace où les dieux visitent les êtres humains et leur délivrent des messages. Ou, dans d'autres circonstances, dans d'autres théories qu'on pense influencées par l'Orient, on a l'idée inverse, on a l'idée que l'âme s'en va dans un autre monde et va chercher l'information dont elle a besoin. Mais le rêve est un point de passage, un point de contact avec un autre monde. On a redécouvert récemment une tradition qui était une tradition de prêtres guérisseurs d'Apollon qu'on appelait les iatromantis et qui guérissaient par le rêve, qui s'enfermaient dans des cavernes pour incuber un rêve, attendre un rêve. Et on a des philosophes présocratiques comme Parménide qui viennent directement de cette lignée. En fait, ça pose maintenant une question aux historiens. On s'est rendu compte que Platon a orienté notre civilisation dans une certaine direction qui n'était pas celle de Parménide et compagnie, qui était beaucoup plus influencée par l'Orient et par la méditation. Il y avait certainement des contacts avec la civilisation bouddhiste. Et on peut se demander ce que serait devenu l'Occident si au lieu de suivre Platon, on avait suivi la voie de Parménide. On serait probablement beaucoup moins avancé technologiquement et beaucoup plus méditatif. C'est ce que nous laissent entrevoir certaines recherches historiques actuellement. Quelques petites citations de l'époque. Artémidore, un des grands interprètes grecs des rêves, disait: Les rêves et les visions viennent aux hommes pour leur avantage et leur instruction. Et il disait aussi: Les dieux ne pouvaient mentir aux Romains, pourvu que ces derniers pénétrassent le sens de leur réponse. Et il posait tout le problème du fait que le rêve est difficile à comprendre. L'Antiquité a conscience de ce qu'il y a une ambiguïté dans les rêves. D'ailleurs, on raconte l'histoire du roi Darius qui, s'apprêtant à déclencher une grande guerre, a rêvé que s'il franchissait la rivière avec son armée, le lendemain soir, un empire aurait vécu. Et il a pensé que c'était un message des dieux qui lui disait: Vas-y, la victoire t'est promise. Et le soir même, il a constaté qu'en fait, ce dont le rêve le prévenait, c'est que s'il franchissait la rivière, son empire aurait vécu. C'est le genre d'histoire qu'on colportait pendant l'Antiquité pour dire: Attention au rêve, attention, il faut pas, si on le disait en langage contemporain, il faut se garder des projections sur le rêve. On peut avoir tendance à croire que le rêve nous dit ce qu'on a envie d'entendre, mais le rêve est ambigu. Ce qui est important encore à savoir, c'est que dans la suite de la tradition des iatromantistes, on a beaucoup pratiqué la guérison par les rêves. En Égypte déjà, mais encore plus après en Grèce, on a retrouvé des temples, 300 temples au moins sur le pourtour de la Méditerranée, des temples grecs, où on venait incuber des rêves. C'est-à-dire que quand on était malade, on venait pour se purifier d'abord, puis dormir dans un endroit particulier qu'on appelait le clinis, Et c'est de ce dortoir, le clinis, qui est devenu notre terme clinique. Et dans ces dortoirs, il y avait assez généralement, c'était des temples dédiés au dieu Asclépios, ce dieu de la guérison. Il y avait des prêtres qui étaient là, qui veillaient toute la nuit, qui attendaient que les rêveurs se réveillent d'un rêve. Et détail assez particulier qui ne plairait pas trop aux occidentaux modernes, il y avait des serpents. On laissait courir des serpents dans ce dortoir parce que c'était les animaux dédiés à Asclépios. Alors c'était des serpents qui n'étaient pas venimeux, mais des grands serpents jaunes qui passaient à travers les rêveurs et qui devaient procurer quelques sensations, etc. Mais on a de très nombreux, je crois, 10 000 ex-voto, c'est-à-dire 10 000 plaques où quelqu'un a écrit, voilà, j'étais malade, j'avais tel problème, je suis allé prier Asclépios. Et Asclépios m'a donné un rêve et le rêve m'a guéri. Ou le rêve m'a donné une prescription. On a des récits comme ça d'un gars qui avait, par exemple, un des problèmes circulatoires et qui est allé à Épidaure, qui était le grand centre du rêve en Grèce, qui a dû attendre que les d'avoir un premier rêve pour pouvoir rentrer dans le temple et y dormir. Donc les prêtres lui ont demandé de se purifier jusqu'au moment où un rêve l'a invité dans le temple. Puis là, il a dormi 2 nuits et la deuxième nuit, il a eu un rêve qui lui a recommandé d'aller se baigner dans le fleuve glacé et qui lui a dit baigne-toi 3 fois dans le fleuve glacé et tu seras guéri de tes problèmes circulatoires. C'est très drôle. Aujourd'hui, il y a des thérapies de problèmes circulatoires qui se font par des bains dans l'eau glacée. Et c'était le rêve qui le suggérait. Cette tradition de rêver pour être guéri s'est prolongée en Occident jusqu'au VIe siècle. On rêvait dans les églises. Jusqu'au VIe siècle, il y avait des gens qui allaient dormir dans les églises pour que Jésus-Christ leur apparaisse en rêve et leur prescrive quelque chose ou les guérisse. Mais à partir du VIe siècle, on verra, il commence à y avoir toute une glissade vers autre chose. Encore une citation, je veux vous lire un texte rapidement de Synésios de Cyrène qui dit « Grâce à sa facilité, la divination par les songes est mise à la portée de tous, simple et sans artifice. Elle n'use pas de moyens violents, elle peut s'exercer partout. Elle se pare de fontaines, de rochers, de gouffres. Et c'est ainsi qu'elle est vraiment divine. Dans la divination par les songes, chacun de nous est lui-même son propre instrument. Quoi que nous fassions, nous ne pouvons nous séparer de notre oracle. Il habite avec nous, il nous suit partout, dans nos voyages, à la guerre, dans les fonctions publiques, dans les travaux agricoles, dans les entreprises commerciales. Alors il dit, livrons-nous donc tous à l'interprétation des songes, hommes et femmes, jeunes ou vieux, riches et pauvres, citoyens privés, magistrats, habitants de la ville et de la campagne, artisans, orateurs. Il n'y a pas de privilège de sexe, ni d'âge, ni de fortune, ni de profession. Le sommeil s'offre à tous. C'est un oracle toujours prêt, un conseiller infaillible et silencieux. Dans ce mystère d'un nouveau genre, chacun est à la fois prêtre et initié. Tout y est, tout ce que l'on peut aller chercher avec le vrai. On a besoin aujourd'hui de réentendre ce genre de choses. C'est exactement ce que peut nous dire la psychologie des profondeurs à propos du rêve. Tout y est. Et le rêve nous rend autonomes. Le fait d'écouter nos rêves nous donne une autonomie spirituelle. C'est à partir de là, c'est à partir de ce moment-là, VIe siècle que je vous citais, que justement il a commencé à y avoir une glissade chez nous et qui tient justement en Occident. Qui a commencé à nous couper du rêve, et ça tient justement au fait que certaines personnes ne pouvaient tolérer cette entière autonomie spirituelle, cette capacité de contacter quelque chose qui pouvait nous informer, sans passer par aucun prêtre, par aucune institution. Mais dès l'Antiquité, le rêve avait quand même ses détracteurs, et ça mérite d'être raconté rapidement. Il y avait Aristote, vous savez qu'Aristote a beaucoup influencé la pensée scolastique chrétienne plus tard. Aristote rageait en disant, mais pourquoi les dieux attendraient-ils qu'on dorme pour nous dire ce qu'ils pensent? C'était une des choses qui faisait enrager Aristote. Et il y a une autre petite histoire qui mérite d'être racontée, c'est l'histoire de Cicéron, qui a passé toute sa vie à cracher sur les rêves, jusqu'au moment où il a fait un rêve qui l'a convaincu que dans le conflit entre Auguste et Octave pour la couronne de devenir empereur, que ce sera Octave le vainqueur. Alors il s'est engagé en faveur d'Octave, convaincu que un rêve lui avait donné la clé. Mais un manque de chance, comme Darius. C'est Auguste qui a gagné, et Cicéron a été condamné à mort. Comme quoi, il faut pas se foutre de la figure des rêves toute sa vie pour prétendre tirer un bénéfice des rêves à la fin. Très rapidement, parce que je vois le temps passer et je veux vraiment garder du temps pour nos rêves. Les rêves peuplent la Bible. Si vous lisez la Bible, si vous lisez l'Ancien Testament en particulier, déjà vous verrez que le Dieu de l'Ancien Testament dit que lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, le Seigneur, je me ferai connaître à lui, et c'est dans un rêve que je lui parlerai. Et puis, il y a des exemples bien connus. Il y a le rêve de Jacob qui se bat avec un ange et qui finalement voit une échelle dans le ciel qui communique où les anges montent et descendent. On peut penser, les anges étant les messagers, qu'ils voient l'espace de communication avec le divin qui lui est présenté. Il y a Joseph, le 12e fils de Jacob, qui lui fait des rêves qu'on pourrait dire narcissiques, qui se voit trôner, qui exaspère ses frères, qui le jette dans un puits. Mais c'est exactement ce qu'il faut pour que le destin amène Joseph à la cour de Pharaon. Et Pharaon a des rêves qu'il n'arrive pas à comprendre, le fameux rêve des 12 vaches grasses et des 12 vaches maigres, que Joseph est capable d'interpréter. Il y a Daniel qui est un prophète et qui défie Nabucodonosor à Babylone, hein, et qui interprète ses rêves et qui voit le colosse au pied d'argile qui est Nabucodonosor, qui prédit son effondrement. C'est un rêve qui convainc Joseph, le père de Jésus, le père adoptif, semble-t-il, d'après ce qui nous est raconté, que Marie est enceinte des œuvres du Saint-Esprit, et donc il la convainc de ne pas la répudier. C'est un autre rêve qui informe les rois mages que Hérode a l'intention de rechercher le bébé Jésus pour le zigouiller, et qui quitte à ce moment-là discrètement la Palestine. Les rêves sont toujours présents et le Talmud, qui est un commentaire des textes de l'Ancien Testament, de la Bible, dit un rêve non interprété est comme une lettre qui resterait cachetée sur un bureau attendant d'être ouverte. La tradition hébraïque est très très riche en rêves et il y a toute une science dans cette culture. On peut parler aussi rapidement, très rapidement, des rêves dans l'islam parce qu'ils ont une grande place. Le prophète Mohammed a eu énormément de rêves qui l'ont prévenu du fait qu'il allait recevoir la révélation. C'était des rêves qu'il a accueillis comme parlant de la naissance de l'aube. C'est à travers un rêve qu'on appelle, comment c'est le rêve du voyage nocturne et de l'ascension, dans lequel il s'est vu partir à Jérusalem et monter au ciel avec son cheval, que Muhammad est initié. Et dans ce rêve, il y a un détail très particulier, puisqu'il voit une coupe verte émeraude sur laquelle son nom est écrit. Or, dans une toute autre culture qu'il ne pouvait pas connaître, il est dit que le Graal, cette coupe d'émeraude, sur laquelle qu'on ne peut trouver que quand notre nom est écrit dessus. Donc, on a un petit éclat d'inconscient collectif. Comment un petit gars, si je puis me permettre de parler comme ça, du prophète Muhammad, dans le désert d'Arabie, a l'intuition d'un mystère sacré qui est le mystère du Graal, qui se déroule à des milliers de kilomètres, puisque le mystère du Graal a surtout pris naissance en réalité dans les îles anglo-saxonnes. Ça communiquait pas vraiment avec l'Arabie à l'époque. Le prophète s'intéressait énormément aux rêves, au point qu'il demandait aux compagnons leurs rêves tous les matins, et il les interprétait. Il les interprétait dans un sens religieux. Les rêves sont très présents encore dans certaines traditions, en particulier soufis. Les Nashbandi, par exemple, pratique l'interprétation des rêves d'une façon systématique à laquelle Jung n'a rien à redire. Enfin, il s'intéresse énormément d'ailleurs des Nash Bandi modernes à la psychologie des profondeurs. Et la dernière chose qu'on peut dire avec l'islam, c'est que c'est pas seulement les rêves du prophète qui sont intéressants. Le rêve prolonge la prophétie, est-il dit. Elle est la 46e partie, ou selon les auteurs, la 70e partie de la prophétie. Ce sont à travers les rêves des croyants que Allah continue à donner ses instructions. C'est ce qui est dit. Très vite, je passe très très vite sur l'Orient, parce que là il y aurait tellement de choses à dire, pour dire simplement justement que en Orient, le dieu Vishnu est censé rêver le monde en permanence. On a d'innombrables représentations de Vishnu endormi dans les plis du serpent cosmique en train de rêver le monde. On a la naissance du Bouddha qui est annoncée à sa mère par un rêve. Mieux et plus intéressant, les Upanishads décrivent une carte de la conscience dans laquelle la conscience ordinaire est finalement quelque chose de très restreint et le rêve est un espace intermédiaire qui nous emmène devant un voile, qui est le voile du sommeil profond, et derrière le voile du sommeil profond, il y a la claire lumière. Le Om, vous connaissez peut-être le symbole du Om, qui est le symbole tantrique par excellence, le symbole de la syllabe Om, est une carte. Vous pouvez, si vous fouillez sur mon blog et que vous tapez dans le moteur de recherche Om, vous pourrez voir un article sur ce sujet. C'est une carte de la conscience telle qu'elle est décrite par les Upanishads. Et en fait, ça va avec le fait que l'Orient a développé depuis très longtemps des yogas du rêve. C'est-à-dire pour eux, en Orient, il n'est pas suffisant d'interpréter le rêve. Il s'agit de devenir conscient en rêve, ou on dirait aujourd'hui lucide, pour pouvoir méditer en rêve et pour pouvoir précisément passer au-delà du voile du sommeil profond, pour accéder à la claire lumière. Mais les tantrikas et les lamas disent que quand on s'est habitué à prêter attention à nos rêves, à se réveiller en rêve, alors on est à l'abri de se perdre au moment de la mort, parce qu'on sera capable de se rendre compte à ce moment-là qu'on rentre dans un espace qui n'est plus l'espace ordinaire, et on sera capable de se concentrer sur la claire lumière. J'aurai l'occasion de vous reparler à un autre moment du rêve de Chuang Tzu, qui est finalement un rêve très célèbre, vous connaissez sans doute, le fameux rêve du sage qui rêve qu'il est un papillon et qui au réveil se demande s'il est un papillon, enfin s'il a rêvé qu'il est un papillon ou s'il est un papillon qui rêve un sage. Il est un sage. Mais je regarde l'heure, il nous faut avancer. Et je vais en arriver au fait que les rêves peuplent toutes les traditions spirituelles, même la tradition chrétienne, on retrouve beaucoup de rêves, par exemple de rêves de saints. Si vous vous intéressez, si vous lisez les confessions de saint Augustin, vous verrez que c'est dans un rêve que sa mère a compris qu'il est en train de se convertir. Je vous ai mis dans le petit support de cours, je vous ai rajouté les rêves de la mère de saint Bernard et de la mère de Saint-Dominique, quand même deux personnages qui ont marqué la chrétienté et qui ont toutes les deux rêvé qu'elles accouchaient d'un chien porteur d'une flamme. Comme pour montrer qu'il y a des connexions comme ça. Mais c'est là qu'on commence à voir le problème qui se pose dans notre civilisation. Ça commence avec le fait que le rêve pose un problème aux saints chrétiens parce qu'il leur parle de sexualité. Il leur parle du corps à un moment où le corps et la sexualité sont diabolisés. Et saint Augustin s'exclame « Encore heureux, je ne suis pas responsable de mes rêves. » Parce que il rêve d'avoir des relations érotiques toutes les nuits, et ça le torture. Il faut savoir qu'avant de se convertir, saint Augustin était un libertin, c'était un homme qui aimait les femmes, et qui, etc. Et quand il s'est converti, ben, en bon chrétien, il a décrété que c'était diabolique, et tout. Et ça vient le chercher dans ses rêves. Encore heureux qu'on n'est pas responsable de ses rêves, dit-il. Selon la psychologie des profondeurs, on lui répondrait « Si justement tu es responsable de tes rêves et tu es responsable d'en faire quelque chose. » Saint Augustin, on peut dire, était un saint malheureux par certains côtés. C'est là, à travers ses rêves. Mais les saints et chrétiens et l'Église va donc commencer à diaboliser le rêve, précisément parce que Il y a des femmes nues, il y a de la sexualité, il y a le corps, il y a tout ce qui est identifié au diable. En fait, ils vont commencer à distinguer justement des rêves qui seraient inspirés par des anges et par Dieu, de rêves du diable, et s'arroger l'autorité d'être les seuls capables de distinguer si le rêve est pur ou impur. Et en fait, ils font ça, c'est aussi politique, parce que à l'approche de l'an 1000, ils ont un problème, c'est qu'apparaissent des courants millénaristes qui surgissent de partout et qui amènent des doctrines qui sont généralement inspirées et qui sont très souvent déclenchées. Enfin, les appels de ces nouveaux prophètes sont très souvent déclenchés dans des rêves. Ils s'entendent appeler et ils se mettent à prêcher la liberté du Saint-Esprit. Ils s'entendent dire qu'il faut abattre cette église qui accumule des biens et qui fait souffrir les pauvres, etc. Et donc les prêtres ont un véritable problème politique. Le rêve devient leur ennemi. C'est le moment où la Sainte Inquisition est créée. C'est le moment où une loi est promulguée qui interdit aux profanes de lire la Bible. On va jusque-là. On va jusqu'à dire les seuls qui peuvent parler de ces choses, ce sont les prêtres. Et les prêtres écartent toute voix dissidente et écartent donc en particulier le rêve qui est considéré comme sorcellerie. Et vous savez que le problème politique qui s'opposait à l'époque est réglé d'une part par les croisades, en particulier la croisade contre les Albigeois, probablement 1 500 000 morts quand même, qui étaient non violents et qui refusaient de se battre, mais qui justement professaient quelque chose de différent. Et ça s'est prolongé jusque dans les chasses aux sorcières et tout ce genre de choses. Le problème, c'est que quand le pouvoir de l'Église commence à s'affaisser parce que tranquillement les lumières arrivent, ben ça change pas vraiment, parce que la rationalité qui va commencer à l'emporter et qui combat les prêtres ne fait pas plus de place au rêve. Et ça, c'est la situation, c'est notre situation originelle à nous, à savoir l'Église a perdu son pouvoir. Au cours de la Révolution française, la raison a été érigée en déesse, et la rationalité scientifique qui a refusé l'obscurantisme imposé par l'Église ne fait pas plus de place au rêve. Mais cependant, à cette époque-là, la Renaissance s'amorce à travers les romantiques. Déjà avant, ça vaut la peine quand même d'être mentionné que Descartes raconte que ses grandes découvertes, il les a faites à travers trois rêves. Alors, en passant, il y a une étude assez marrante qui a été faite qui montre que Descartes fumait du haschich, et donc on peut se demander quel est le rôle du haschich dans ses découvertes. À l'époque, on fumait pas de tabac, mais par contre, le haschich était importé. Et donc on ne sait pas très bien si les rêves qu'il décrit sont des rêves nocturnes ou des rêves haschichiens, mais c'est dans ces rêves qu'il a élaboré le système qui a commencé, le système cartésien, le système orthonormé qui a permis toute la révolution mathématique qu'on peut attribuer à Descartes. À l'époque, on a aussi Shakespeare qui commence à revaloriser le rêve, par exemple en disant We are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with a sleep. C'est-à-dire, nous sommes faits de la même étoffe que les rêves, et notre petite vie est enveloppée par un rêve. On a William Blake qui s'intéresse beaucoup aux rêves et qui découvre dans ses rêves une solution pour graver des illustrations. C'est son frère qui apparaît dans son rêve et qui lui donne une technique de sérigraphie qui est encore utilisée aujourd'hui. Et finalement, on a Goethe, le grand Goethe, qui a été tellement important pour la culture romantique allemande, romanique, qui dit: La nature humaine est dotée de pouvoirs merveilleux. Elle recèle en son tréfonds la présence secrète des accents les meilleurs de la vie à l'instant même où nous fondons en elle la moindre des espérances. Il m'est arrivé parfois dans ma vie de m'endormir en pleurs, mais un rêve me hantait, qui me présentait les femmes les plus charmantes venues pour me consoler et me bercer, et le lendemain je me levais frais et dispos. Il y aurait beaucoup, beaucoup à dire sur ce rêve. On a l'exemple d'un rêve compensatoire. On parlera de ça. Vous avez des documents déjà à ce sujet-là, sur la fonction compensatrice du rêve. On pense qu'on est dans un problème terrible. Par exemple, on vient de perdre son emploi et on est en train de se coucher en disant « Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'en sortir ?» Et on a un rêve merveilleux qui nous montre en train de courir librement et qui nous dit « Regarde, t'es enfin débarrassé du truc qui t'empêchait de courir librement. Tu vas pouvoir te mettre à la peinture ou tu vas pouvoir... » C'est un rêve compensatoire, mais Goethe déjà nous en donne un exemple. Et donc, ce sera là-dessus qu'on va s'arrêter ce soir. On a vu comment le rêve était à la base de nos cultures ancestrales. Comme je vous l'ai dit en introduction, ils n'avaient pas besoin d'université, ils n'avaient pas besoin de psychologie des profondeurs pour comprendre leurs rêves. Jung va plus loin, il dit « Nous n'avons eu besoin de psychologie des profondeurs que parce que nous avons perdu le sens du mythe et de la connexion avec les archétypes. » Donc nous avons eu besoin de remplacer cette connexion par une psychologie, par quelque chose de rationalisé. Nous les avons perdus pour deux raisons qui transparaissent à travers ce que je vous ai dit. Des raisons politiques, on pourrait dire. Un complexe de puissance qui a pris le pouvoir et qui nous a coupés de toute source spirituelle en prétendant qu'il était la seule autorité qui pouvait nous rapprocher de la vérité intérieure. Mais aussi parce que, dit Jung, il y avait à travers ça un mouvement psychologique collectif nécessaire, qui est du même ordre que celui que vit un enfant quand, vers l'âge de 6-7 ans, il apprend à distinguer la réalité ordinaire du rêve. On peut dire que nos ancêtres vivaient dans le rêve, vivaient en connexion permanente avec le rêve, mais qu'ils étaient dans un état psychique qui est l'équivalent de celui d'un enfant, avant qu'il atteigne l'âge de raison. Et il a fallu un certain développement psychologique, la naissance de cette raison, qu'on s'éloigne du rêve pour pouvoir y revenir. Et le retour du rêve, notre retour au rêve, ce sera l'objet de notre prochain cours la semaine prochaine. Mais pour l'instant, je vais m'arrêter là avec la théorie. Je vérifie juste, j'ai pas eu de questions en cours. Avant qu'on prenne une pause, je veux vérifier si il y aurait une question qui réclamerait d'être posée avant donc qu'on prenne la pause et que tout à l'heure on passe à la pratique. Alors j'aime toujours ce genre de silence. Comme je vous ai dit à l'entrée, ma stratégie, c'est de donner à manger au mental jusqu'à ce qu'il ait plus faim. Donc je suppose que quand le silence règne comme ça après une présentation, c'est que ça va. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Je vous propose donc qu'on prenne une pause de 10 minutes, ce qui nous fera reprendre à 20h35. À ma montre, il est 20h25. Je reprendrai donc dans 10 minutes. À 35. Donc, encore quelques minutes de théorie, et puis je vais vous envoyer un rêve à travers Zoom, qu'on lira ensemble et qu'on va commencer à travailler. Hein. Déjà, je vous précise quand même ce point, parce que ça a semblé être ambigu pour certaines d'entre vous. Je vous invite à m'envoyer des rêves, pas à m'envoyer nécessairement un rêve pour chaque rencontre. Hein. Je souhaite faire en sorte qu'on puisse travailler un rêve de chacune des personnes qui travaillent, qui vient au cours pendant l'ensemble de la session. Donc, je vous invite à m'envoyer des rêves. je les accumule, je les regarde, j'évalue aussi comment ils sont plus ou moins pertinents par rapport à notre sujet du jour, peuvent mettre des choses, et je fais en sorte que vous ayez au moins un rêve qui soit travaillé par le groupe, avec le groupe, au cours des 10 rencontres. Et donc, comme je disais, je pars du principe que vous n'avez pas nécessairement lu le support de cours, que c'est quelque chose que vous pourrez regarder plus tard. Et donc, ce soir, je vais vous proposer une méthode extrêmement simple, simplifiée, je pourrais dire, pour travailler avec un rêve. Mais la première chose que je veux nommer, c'est que je vous ai envoyé un rêve, je vous enverrai souvent des rêves comme ça avec le support de cours pour une soirée qui illustre certains points que je veux aborder. Et je vous ai envoyé un rêve qui me paraît digne d'intérêt quand on commence un travail de rêve. Celles d'entre vous qui ont l'habitude déjà de participer à des cercles de rêve, des loges de rêve, du travail de rêve, savent à quel point livrer un rêve peut donner l'impression de se mettre à nu. Et finalement, parler d'un rêve, amener un rêve dans un groupe en particulier, révèle beaucoup plus de choses de nous qu'on aurait pensé assez généralement. On se dit, mais j'aurais jamais cru qu'il y avait autant de choses dans mon rêve. Et c'est pour ça que je vous ai communiqué un rêve que j'adore répéter. Désolé, certaines d'entre vous l'ont déjà entendu plusieurs fois, je suppose. Mais c'est ce rêve d'une jeune femme qui a participé à un cercle de rêve. Et dans ce cercle de rêve, c'était chacun son tour d'amener ses rêves. Et la première fois qu'elle a dû amener ses rêves dans le cercle, elle était très inquiète. Qu'est-ce que les autres allaient découvrir sur elle? Qu'est-ce qu'allait se passer? Et elle reçoit dans la nuit qui précède le rêve suivant. Elle arrive dans le bâtiment où se déroule le cercle de rêve. Et au moment d'entrer dans la pièce où le cercle se déroule, elle avance sur une estrade de mode. Et là, elle se rend compte qu'elle est nue. Elle s'avance toute nue sur une estrade de mode au milieu de la pièce. Elle est terrifiée. Mais elle entend les conversations des gens qui l'entourent. Et il y en a un qui commente qu'elle a une magnifique robe verte. L'autre qui dit non, c'est un très beau tissu bleu, vraiment, t'as vu le drapé. Et elle réalise que toutes les personnes qui sont présentes la voient habillée d'une façon différente. L'interprétation de ce rêve est très directe et très simple. Vous pouvez être absolument tranquille quand vous livrez un rêve. Les autres ne pourront vous percevoir qu'à travers leur projection. Ils ne pourront voir que ce qui résonne avec leur vérité intérieure. D'où la nécessité, quand on travaille les rêves avec d'autres personnes, quand on écoute les rêves d'autres personnes, de faire un grand travail sur soi avec nos propres rêves, pour être capable d'élargir le spectre de ce qu'on est capable d'entendre, sans que nos projections nous voilent. Là. Voilà. Pour la petite histoire, c'est un cercle soufi dont il est question. J'ai cité le bouquin Catching the Thread de Gawelin Wanganli. Et la conclusion qu'il amène, c'est que quand elle est arrivée au bout de l'estrade, elle voit qu'il y a quelqu'un qui la voit. C'est une enseignante, une maître. Et elle voit que elle la voit dans sa nudité. Mais qu'en fait, elle la voit tout le temps dans sa nudité, qu'elle soit habillée ou pas. C'est aussi ce que la perspective spirituelle amène par rapport à la notion de l'éveil. Être éveillé, c'est ne plus avoir de projection qui nous empêche de voir les choses. Donc ça, c'était le rêve d'introduction que je voulais vous citer ce soir en vous le commentant rapidement. On a déjà eu aussi le rêve de Gilgamesh, on a déjà une riche matière. Et tout de suite, je vais commencer par vous envoyer à travers la discussion. Je peux envoyer à tout le monde dans la réunion un fichier qui va partir de mon ordinateur. Voilà. D'un premier rêve qu'on va travailler. et qui est un rêve qui s'intitule Échapper en vélo. Un rêve que m'a envoyé Delia. Merci Delia. Alors, on va procéder de la façon la plus simple, je dirais, de l'approche jungienne, qui est la suivante. On commence toujours, on va lire le rêve. Je vais même demander éventuellement tout simplement à Delia si vous voulez bien nous le lire. Hein. Vous l'avez reçu, vous voyez, vous avez le rêve de votre côté, vous pourrez le regarder, le garder sous les yeux sans le noter. C'est dans les messages, hein, dans les discussions que je vous ai envoyé. Sinon, je peux aussi partager de toute façon mon écran et faire en sorte que vous l'ayez devant les yeux. Et je vais me l'amener. Alors, la première chose qu'on va faire quand on va entendre ce rêve, c'est que on va commencer par passer par l'intuition. Pour Jung, la première chose à laquelle on doit prêter attention quand on entend un rêve, c'est aux intuitions qui nous traversent. Pour être précis, je dois vous dire que la porte d'entrée du rêve, c'est je ne sais pas. C'est-à-dire que si quand vous entendez un rêve, vous avez tout de suite une idée qui dit « Ah, oh, ce rêve, ce n'est que », vous pouvez tout de suite commencer par écarter ça en disant « Non, non, je ne sais pas ». Jung lui-même, après avoir écouté près de 80 000 rêves, disait « Quand j'entends un rêve, la première pensée qui me vient, c'est « Je ne sais pas ». Ça a l'avantage de nous mettre toutes à égalité. Parmi vous, il y en a peut-être qui n'ont jamais travaillé les rêves, qui se disent « Comment je vais faire? Je ne sais pas ». Mais on commence tous par là, toutes par là. Je ne sais pas. Et dans ce je ne sais pas, dans ce vide, on laisse venir la première intuition. À quoi nous fait penser ce rêve? C'est pas une certitude, c'est juste une intuition. Si c'est incongru, c'est encore mieux. Et quand on aura exprimé les intuitions, on passera à une autre étape qui consiste à interroger les associations, c'est-à-dire à quoi fait penser certains éléments du rêve, à la rêveuse. Et il y a une question qu'on posera toujours, c'est est-ce que tu te souviens ou est-ce que vous vous souvenez, je vais tutoyer tout le monde, ce sera plus simple si vous permettez, de ce qu'étaient tes préoccupations au moment du rêve. Parce que le rêve vient généralement répondre à une préoccupation consciente. Donc, un des éléments qu'on va rechercher, c'est qu'est-ce qui se passe dans le conscient au moment où ce rêve est arrivé. On n'a pas toujours l'information. Mais quand on l'a, on a une piste. On a une piste qui nous est offerte. On peut penser que l'inconscient répond au conscient. Et donc, on va pa passer l'intuition d'abord, puis on va passer par une phase de question. On va questionner les différents éléments du rêve et on va donc questionner où est le conscient. Et puis on va éventuellement amener des amplifications. Des amplifications, c'est qu'on va aller chercher comment les symboles du rêve se retrouvent éventuellement dans des mythes, dans des contes, dans la culture, dans le collectif. Et c'est quand on a fait ces trois étapes-là qu'on peut commencer à risquer une proposition d'interprétation. C'est-à-dire qu'on peut arriver à dire, ben, moi je me demande si le rêve ne voudrait pas dire ça. Et là, on va pouvoir discuter. Parce que, en fait, il y a quelque chose qui est absolument essentiel et que je suppose que vous savez toutes, c'est que seule la rêveuse connaît la vérité de son rêve. Et non seulement seule la rêveuse connaît la vérité de son rêve, mais l'analyste ne peut jamais dire à la rêveuse, voilà ce que ton rêve veut dire, il va falloir que tu l'acceptes. Parce que la rêveuse, quand elle entend une proposition d'interprétation, si cette proposition est juste, il se produit un mouvement intérieur. Il se produit un déclic. Il se produit un ah, oui, ah. Souvent, c'est même ah, bien sûr, ah, je le savais, mais je ne le savais pas que je le savais. Et c'est une des meilleures définitions de l'inconscient de mon point de vue. L'inconscient est souvent quelque chose qu'on ne sait pas qu'on sait. J'épiloguerai là-dessus un autre jour. Donc, la méthode qu'on va suivre, très simple, c'est intuition, association, les questions, amplification, peut-être qu'il n'y a pas d'amplification, peut-être qu'il n'y a aucun élément culturel qui nous vient, proposition d'interprétation, et avec proposition d'interprétation, discussion. On va discuter autour du rêve, et on va bien voir à partir de là où c'est qui nous emmène.